C'est le propre de notre compagnie d'aller en divers lieux. Là où il y a un espoir de bien spirituel. C'est personnellement la première phrase que j'ai entendue en arrivant au noviciat. Je crois qu'elle s'applique très bien à Claude Lacolombière. Il a été en divers lieux, ce qui veut dire disponibilité et obéissance, qualité auquel Saint Ignace tenait tout particulièrement. Et Claude en est un très bel exemple. Divers lieux, il a vécu près de quatre fleuves. Il a connu le Rhône, à Vienne, à Avignon, à Lyon. À Lyon, à plusieurs reprises, il y a eu des départs, des retours. Je ne les compterai même pas. Et il y a eu Paris avec la Seine, où il fait sa théologie. Il y a la Tamise avec Londres, ce qui est tout de même quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et il y a la modeste Bourbince que nous pouvons bien élever au rang de fleuve et même au-dessus, car c'est bien là que les événements ont été les plus importants. Mais dire que ces événements ont été très importants ne veut pas dire qu'il ne faut parler que de cela. Il y a eu beaucoup d'événements dans la vie de Claude. Et peut-être contrairement à ce qu'on fait assez souvent, bien c'est l'ensemble de cette vie que je voudrais présenter. Au cours de cette vie, ce qui m'a semblé apparaître, c'est le nombre d'événements inattendus qui se sont produits dans sa carrière. Et je dirais que le premier, c'est lorsqu'il entre au noviciat en 1658, je crois. Il nous dira, beaucoup plus tard, qu'il avait éprouvé ce qu'il appelle une horrible aversion, c'est-à-dire une grande répugnance pour la vie religieuse. Si on essaye de comprendre ce que ça veut dire, je pense que cela signifie qu'il avait peut-être pensé à autre chose avant, peut-être à l'image de son père, qui était un homme, un très bon chrétien, peut-être à l'image de son frère aîné, le seul qui ne se soit pas marié dans la famille et qui a eu 13 enfants et a été un modèle pour la ville de Vienne. Les trois autres garçons devenant prêtres et l'unique fille survivante devenant visitandine à Condrieu. Cette horrible répugnance ne durera pas longtemps, car après l'inattendu, il y a vraiment la découverte de quelque chose de nouveau. Alors, ce qui va marquer après les années de formation, c'est au départ plusieurs surprises, donc des inattendus. Il peut y avoir des inattendus, d'ailleurs, agréables. Et ce que je vais donner en font partie. Des premiers, enfin, qu'on peut peut-être signaler, c'est qu'il est choisi à un moment, lorsqu'il finit sa formation littéraire à Avignon, comme celui qui doit prononcer le panégyrique de Saint François de Sales. En effet, la canonisation de François de Sales tombe au moment où lui va quitter Avignon où il a fait 2 ans de noviciat, 1 an de philo et 5 ans d'enseignement. On l'a déjà fait parler et il a révélé des dons remarquables. Là, c'est tout de même quelque chose qui peut frapper que ce soit un jeune jésuite qui soit choisi, alors que Avignon, qui est encore une ville papale à ce moment-là, dispose d'un clergé abondant et d'un nombre de jésuites également assez important. Après avoir fait cette première partie, il doit faire la théologie. Et comme il s'est montré particulièrement brillant, on va l'envoyer à Paris. C'était l'habitude à l'époque que les meilleurs sujets, ceux dont on pouvait espérer un développement qui aurait des conséquences importantes pour un apostolat important aussi, il va donc à Paris au collège qui s'appelle à l'époque Collège de Clermont, qui deviendra le Collège Louis le Grand un peu plus tard. Et en plus, au cours de ce séjour, il est chargé d'aider le père qui est responsable des fils de Colbert. Colbert, c'est quand même le grand ministre de Louis XIV. Et comme ce père doit quitter, parce qu'on l'appelle ailleurs, c'est Claude qui prend la responsabilité de cette mission. Il faut savoir que les études comprenaient des cours le matin, surtout. L'après-midi, c'était des répétitions, quelquefois des questionnements aussi. Et en particulier, on demandait aux jeunes jésuites de s'occuper des élèves qui étaient internes dans les classes secondaires et primaires, pour prendre le vocabulaire de notre époque. Bien, lui a ce rôle, donc plus important, de traiter avec les enfants de Colbert, qui sont d'ailleurs fort brillants, mais comme le dit aussi Claude, assez vaniteux. Il y aura une troisième chose encore, qui est comme la répétition de la première. Et après la théologie, donc après le sacerdoce, il ne va pas tout de suite au troisième an, ce qui est la suite logique. On doit lui dire: vous êtes jeune, vous pouvez quand même faire encore 2 ou 3 ans de régence, c'est-à-dire d'enseignement dans un collège, avant d'attaquer la dernière année du troisième an. C'est une pratique qui se faisait, et j'ai connu à mon époque des scolastiques qui étaient entrés à 17 ans et à qui on avait dit: vous êtes jeune, vous allez faire 2 ou 3 ans de régence supplémentaire. Cette régence, pour Claude, va encore être soulignée par le fait qu'après 2 ans d'enseignement, pendant lesquels il continue aussi à prêcher et où il attire les foules, bien, on va le spécialiser. Il y avait à l'époque, on voit ça quand on lit un peu la littérature du XVIIe siècle, un certain nombre de prêtres qui proposaient, disons, on dirait nous, des conférences spirituelles. Bon, à l'époque, on disait des sermons. On allait donc entendre un sermon qui pouvait durer 1 heure, 1 heure et demie. Certains avaient du succès, d'autres beaucoup moins. Peut-être vous rappelez-vous de votre classe de seconde que Boileau avait dit à propos d'un certain abbé Cotin: on est assis à l'aise au sermon de Cotin, car il y avait peu de gens qui allaient l'écouter. Eh bien, pour Claude, on n'était pas assis à l'aise. Au contraire, on se pressait, si bien qu'on va le décharger de son enseignement pour qu'il puisse se consacrer totalement à la prédication. Après donc cette année de prédication supplémentaire, alors arrive ce qu'on appelle toujours le troisième an. C'est une période importante. Elle a été inventée par Saint Ignace. Saint Ignace voulait des gens solidement formés, et pas seulement du point de vue de la théologie, mais aussi de la vertu. Et pour cela, il pouvait arriver que, dans les études, dans la régence, où il y avait beaucoup de choses profanes que l'on traitait, on avait pu parfois être un peu refroidi au point de vue spirituel. Et cette période, qui était comme un nouveau noviciat, d'où son nom de troisième an, après les deux ans de noviciat, permettait de se reprendre, en particulier par les grands exercices de Saint Ignace pendant 30 jours. Alors, ça va être pour Claude un point capital, car en priant, en méditant sur toute la vie du Christ, car les 30 jours, c'est une grande méditation sur la vie du Christ, mais qui commence par, en essayant de prendre conscience du point où on en est. Et Claude va découvrir à ce moment-là, bien que tout ce que je viens de vous dire, ces surprises agréables, bien, ont été un peu un danger. Il s'aperçoit qu'il s'est laissé aller à une certaine vanité. Succès à Paris, succès à Lyon. C'est agréable de voir que les gens viennent vous féliciter de ce que vous venez de dire. Imaginez la bonne bourgeoisie lyonnaise qui se presse dans l'église des Jésuites où Claude a prêché. On attend ses sermons, on l'invite dans d'autres paroisses. Quand il peut parler de ce qu'il a vu chez Colbert, dans des salons littéraires de Paris qu'il a fréquenté, avec le père Bourg, qui était donc au moins au début son responsable, bien, il s'est un peu laissé aller, et découvrant alors le Christ en croix, il se rend compte qu'il a à demander pardon. Ces effets de vanité lui apparaissent comme quelque chose de très grave. Il parle de ses désordres et de ses crimes même. Peut-être le mot avait-il pas tout à fait la force d'aujourd'hui. En tout cas, il se découvre pécheur. Mais alors, étant donné quand même sa bonne volonté, sa fidélité aux règles qu'il a eues pendant toutes les années précédentes, eh bien, il va dire lui-même, dans les notes spirituelles qu'il nous a laissées, qu'il a senti une pensée très douce qui lui disait que ses fautes devenaient l'occasion pour Dieu de lui manifester sa miséricorde. Au fond, Claude découvre à partir de ses fautes ce qui caractérise Dieu, c'est son amour exprimé en particulier par sa miséricorde. Car la miséricorde, il y en a toujours besoin, puisque on est toujours pécheur. Alors cela va changer sa vie. Et d'un seul coup, je dirais qu'il va devenir l'homme de la miséricorde. Il lui arrivera plus tard, alors, d'intervenir. Il écrira dans une lettre à une religieuse qui dit qu'elle est découragée, Qu'est-ce que c'est que ce découragement dont vous me parlez? On dirait que vous ne connaissez pas la miséricorde de Dieu. Et il continue sur ce ton-là, en lui passant vraiment un savon, comme on dit, pour qu'elle s'ouvre au contraire à la miséricorde. Car c'est ce manque de confiance qui est la véritable faute, en réalité. Bon. Donc, ce troisièmement est révélateur et va orienter maintenant Claude sur la vraie direction. Alors arrive à ce moment-là le troisièmement. Ce troisièmement, il a été court chez lui, parce que, semble-t-il, on avait besoin de lui ailleurs. On peut penser qu'il a été raccourci parce qu'il était attendu dans un autre endroit. Quand je dis attendu, il n'y avait qu'une personne qui attendait. Et cette personne, c'était celui que Claude appellera toujours, celle que Claude appellera toujours la sœur à la coque, Sainte Marguerite Marie. Marguerite Marie savait que quelqu'un allait venir. Vous savez la phrase que le Christ lui avait dite, « Je t'envoie mon fidèle serviteur et parfait ami ». Je crois que vous connaissez tous cette phrase. Elle est, je dirais, le décret déjà de la canonisation de Marguerite Marie, au moins au niveau du ciel. Oui, il est attendu, mais lui, il ne le savait pas encore. Et alors, on arrête son troisièmement au mois de janvier, alors que ça aurait dû continuer, et on va l'envoyer, alors, à Paray-le-Monial. Mais Paray-le-Monial, c'est encore un de ces inattendus qui touche donc la carrière de Claude. Inattendu parce que après le succès qu'il avait eu à Lyon, on s'attendait à ce qu'on le nomme dans une grande ville, peut-être pas tout de suite à Lyon, mais peut-être à Dijon, peut-être à Avignon, qui était important aussi, à Marseille, à Toulon, il y avait déjà aussi une maison importante de jésuites. Or, où est-ce qu'on l'envoie? C'est à Paray-le-Monial. Une ville qui a à peine 2000 habitants, où il y a une petite résidence, où il y a 4 prêtres, comme aujourd'hui, mais avec en plus quand même 2 frères coadjuteurs pour s'occuper des choses plus matérielles. Ça reste tout de même une petite résidence. Mais on sait ce qui se passe. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas développer tout ce qui s'est passé à Paray-le-Monial. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le trouble lorsque les manifestations du Sacré-Cœur se sont révélées dans le monastère et puis évidemment au-delà du monastère, dans la ville. Et comme toujours, il y a des partisans, il y a des adversaires. Certains disent elle est folle, d'autres disent au contraire elle est pieuse, elle est vertueuse. Tout ceci est vrai. On a demandé à des prêtres, à des gens qui semblent avoir un bon jugement. Les réponses n'ont pas été tellement satisfaisantes. Le père de la chaise, qui connaît bien Claude la Colombière, il l'a eu sous ses ordres, alors va l'envoyer à Paray-le-Monial parce qu'il pense qu'il a le jugement nécessaire pour trancher la question. Et de fait, c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il commence par prendre contact avec le monastère et il rencontre une supérieure qui a certainement une grande valeur. Et elle a joué, elle aussi, un rôle important dans l'histoire de Marguerite Marie. Mais elle voudrait être appuyée par quelqu'un de plus solide. Quand Claude arrive, il y a déjà eu deux des grandes apparitions du Christ à Marguerite Marie. Donc le Christ a déjà demandé que Marguerite Marie accepte d'être sa victime, son intermédiaire en tout cas, pour communiquer ce culte de son cœur qu'il veut faire connaître. Il y a dans la deuxième apparition une insistance sur ce culte et on commence déjà à le pratiquer, mais dans une petite surface à l'intérieur du monastère. C'est quelque temps après que viendra alors la troisième apparition, celle où le Christ demande que ce culte soit destiné à l'Église universelle. Claude, eh bien, comment procède-t-il? Il rencontre donc d'abord la supérieure, ensuite il donne d'ailleurs une conférence spirituelle à la communauté. C'est à ce moment-là d'ailleurs que Marguerite Marie reconnaît celui que le Christ a promis de lui envoyer. Et Claude la remarque parmi les autres. Et la supérieure a donné l'ordre à Marguerite Marie d'ouvrir toute sa vie spirituelle à ce père qui arrive. Marguerite Marie obéit avec une certaine répugnance, disant à Claude que ça lui coûte de révéler tout ce que le Christ lui a montré. À quoi Claude répond, vous le savez, « Eh bien, je suis heureux que notre première rencontre nous amène à faire un sacrifice pour le Seigneur. » Alors, bon, je ne développe pas. Bon, petit à petit, bien Claude, qui a du jugement, ce jugement qu'il a déjà été signalé, d'ailleurs, au noviciat, dans un rapport que le maître des novices avait fait au père général de l'époque. Donc, ce garçon de 17 ans, 19 ans à la fin du noviciat, avait déjà frappé par la justesse de ce qu'il disait. Bon. Et ça s'est développé, et il était l'homme qu'il fallait pour Paray-le-Monial. Bon. Ainsi donc, petit à petit, les choses vont se développer, ce culte va commencer à se répandre et en tout cas le monastère entre vraiment dans le service qui est demandé ainsi aux chrétiens de cette époque en mettant en avant l'amour du Christ. On sait qu'on est à une époque où le jansénisme qui veut limiter, on dirait nous, la miséricorde de Dieu, fait des ravages en France, mais dans d'autres pays aussi de l'Europe. Bon. J'en profite pour dire quand même aussi en passant que Claude n'a pas fait seulement cette clarification pour Marguerite Marie et pour le monastère et pour ensuite pour l'Église, mais il a eu quantité d'activités sur Paray-le-Monial, beaucoup d'accompagnement spirituel, en particulier par lettres, mais aussi directement, bien sûr. Il s'est occupé de quelques confréries, associations spirituelles qui existaient à Paray, il y en avait pas mal. Il prêche, évidemment, bien sûr. Il n'a pas les foules de Lyon, mais il a tout de même ce qui, pour Pharrell Monial, peut être une foule. Il a aidé à mettre au point un hôpital sur Pharrell Monial, et il reçoit quelques prêtres aussi pour les aider dans leur vie spirituelle. Et puis il y a tout de même un petit collège, il ne s'en occupe pas lui-même peut-être très directement, mais il est tout de même responsable, donc il doit bien de temps en temps y jeter un coup d'œil. Bon, donc tout semble aller très bien. Mais voilà qu'un nouvel inattendu va se manifester. Il est appelé par son supérieur qui lui dit qu'on va le nommer à un nouveau poste en Angleterre. Alors c'est là qu'il faut faire une petite explication d'histoire de l'Angleterre. On lui dit qu'il va être nommé prédicateur de la duchesse d'York. Bien. Alors, rappelons cet épisode. Dans l'Angleterre de cette époque, comme d'ailleurs après, il y a d'un côté le Parlement, donc les lords et puis les communes, et puis il y a le roi ou la reine. Et pendant toute l'histoire d'Angleterre, il y a souvent une tension entre ces deux éléments. Quelques années avant cette époque-là, donc un républicain, un révolutionnaire, Cromwell, a essayé de modifier tout ça en utilisant le Parlement. Le roi qui s'y opposait a tout simplement été décapité. Charles Ier, c'est Charles Ier et le Louis XVI des Anglais. Bon, on sait même, alors que le duc d'York et son frère, qui était jeune, l'aîné des frères avait 17 ans, le duc d'York en avait 12, ils réussissent à s'évader pour échapper à Cromwell. Et ils vont se réfugier où ils peuvent, à des cours en Allemagne, en France, auprès de Louis XIV. Ce sont deux princes, mais qui n'ont pas l'argent, qui sont pauvres. Il y avait une fille aussi, il faut la citer au passage, c'est Anne d'Angleterre, celle qui épousera le frère de Louis XIV et dont Bossuet fera une oraison funèbre, Madame Sommer, Madame est morte, qui est restée célèbre. Bon, enfin, laissons Anne d'Angleterre qui n'agit pas. Elle est d'ailleurs morte au moment où Claude arrive en Angleterre. Alors, le pape de cette époque a un grand projet. Et c'est dans ce projet que Claude va entrer. Il voudrait ramener l'Angleterre à l'obéissance à Rome. Et il se trouve que le roi est catholique et son frère aussi, car les deux garçons sont revenus après la mort de Cromwell. Le Parlement les a remis comme roi et prince d'Angleterre, mais sous la tutelle du Parlement. Et ils ne peuvent pas faire grand-chose, car ils n'ont pas d'argent, et ils dépendent de la bonne volonté du Parlement, qui lui est marqué par le courant des puritains, qui sont très exigeants du point de vue de la morale. Or, il faut bien dire que les deux princes, donc le roi, qui a pris le nom de Charles II, et son frère, le duc d'York, ne sont pas des modèles, disons, de morale chrétienne. Bon. On pense quand même que si le duc d'York devenait roi avec une épouse chrétienne, on pourrait alors faire quelque chose pour ramener l'Angleterre. Car en fait, le roi, depuis 15 ans où il est marié, n'a pas d'enfant. On voit bien que le couple est incapable d'en avoir. Et quant au duc d'York, il est veuf, donc il est libre. Lui a plus d'ailleurs de tempérament que son frère, et on pense qu'il ferait un bon roi. Alors, le pape a déniché, je peux dire, une princesse catholique. Elle s'appelle Marie-Béatrice d'Este. La maison d'Este est une des grandes maisons d'Italie. Seulement, la petite princesse en question vient d'entrer au couvent. Mais elle n'est encore que postulante. Alors le pape va insister, et plus qu'insister, lui donner l'ordre d'aller épouser donc le duc d'York. C'est ce qui va se faire. Elle laisse son couvent et par un long voyage qui traversera toute la France, elle va épouser le duc d'York. Les choses vont bien, mais ça ne change pas grand-chose dans l'immédiat. En tout cas, la duchesse a exigé d'avoir autour d'elle une cour catholique où elle puisse continuer à pratiquer. C'est ainsi qu'il y aura dans le palais Saint-James, où elle habite, 27 personnes qui forment la cour de la duchesse. Et il y a un aumônier et il y a un prédicateur, et c'est là que Claude intervient. Comme c'est un bon prédicateur, eh bien, on va justement lui donner cette mission. Cette mission, ben, il l'accepte, comme je vous l'ai dit, c'est inattendu, mais il est toujours prêt, toujours disponible. C'est une mission délicate, car les persécutions contre l'Église ont peut-être un peu ralenti, mais il faut beaucoup de prudence. Et si les gens sont un peu trop actifs, un peu trop prosélytes, ils risquent la prison et même la mort. Donc, c'est assez délicat. Claude va donc vers le mois de septembre. Il part donc vers l'Angleterre. Son travail sera essentiellement, ce qu'on lui a demandé, cette prédication. On ne peut pas dire que ça le prenne énormément. Il n'a pas énormément de travail, semble-t-il, car il ne veut pas rencontrer les jésuites anglais. Ça serait dangereux, ça attirerait l'attention sur eux. Et il pourrait être arrêté. D'ailleurs, quelques mois après, il y aura quelques arrestations et même des exécutions. Donc, il faut qu'il reste là où il est. Mais il y a tout de même des catholiques anglais qui viennent le voir. Bon, c'est discret. Ils viennent parfois écouter ses sermons, mais on filtre tout de même les gens. On n'accepte pas tout le monde. Alors, un gros incident va éclater. Claude reçoit parfois des Français qui habitent Londres. Et il y en a un qui, en plus, est dauphinois, comme Claude. Et cet homme, on sait son nom, il s'appelait Fiquet. Ce Fiquet vient voir Claude en lui disant qu'il voudrait se convertir. Il est chrétien, mais il a une vie assez dévergondée et il veut revenir vraiment à la vertu. Bon, Claude l'accepte, mais il se rend très vite compte que rien n'a changé dans la vie de cet homme. Alors, il lui ferme sa porte lui disant maintenant de le laisser tranquille. Alors, évidemment, Fiquet n'est pas très content, et en parlant avec un ami à propos d'arrestation qui avait eu lieu, il lui dit, ben, si on venait voir un petit peu au palais Saint-James, c'est écouter le jésuite qui y est, on apprendrait aussi de belles choses. Alors, du coup, l'ami est très intéressé, parce que quand on livrait un catholique qui faisait de l'action catholique, il y avait une récompense de 20 livres. Et si ce catholique était un jésuite, c'était 100 livres. Le jésuite valait 5 unités, 5 personnes. L'homme en parle aussi à un autre, et finalement c'est cet autre qui n'a pas beaucoup de scrupules qui va dénoncer donc Claude en disant qu'il a dit des paroles contre le roi. C'est évidemment absolument faux, mais c'est immédiatement une arrestation qui est faite sur place d'abord. Donc il est gardé dans le palais Saint-James. On fouille ses affaires, on n'y trouve rien, et il y a un premier procès avec la cour des lords, la chambre des lords. Le procès se termine par un non-lieu, car les lords disent quand il y a un accusateur, on ne peut pas prononcer une condamnation. Tous ces députés des lords sont quand même honnêtes. Ils ont condamné des prosélytes, mais il faut qu'il y ait vraiment des motifs juridiques. Alors, l'accusateur va chercher dans les pubs de Londres d'autres personnes que l'on paye, et à 3 ou 4, ils renouvellent leurs accusations. D'où nouveau procès, cette fois devant la Chambre des communes, et Claude est condamné. Condamné à quoi? Finalement, à l'expulsion. Comme il le dira lui-même, il est exilé dans son propre pays. Il faut rappeler aussi qu'un autre événement s'est passé quelque temps avant. Vers le mois de mai, Claude a les premiers crachements de sang, autrement dit, les signes d'une tuberculose qui a commencé. Et il n'y a pas besoin d'être médecin pour savoir ce que ça signifie. C'est dans cet état qu'il va être interné, non pas dans la tour de Londres, mais dans une prison absolument infecte qui s'appelle King's Bench. Il est condamné donc à cet exil. On lui autorise à rester encore 10 jours, tellement son état de santé est lamentable. Enfin, finalement, il part en France, et c'est là qu'il va alors reprendre ses dernières années qui vont être vraiment celles d'un malade, avec les hauts et les bas qui arrivent toujours. Ce qu'il a en plus, c'est que officiellement c'est une condamnation, et quand il arrive en France, on ne le reçoit pas avec un grand enthousiasme, parce que finalement, vu de loin sans connaître les choses, on l'a envoyé en Angleterre pour faire des sermons devant la duchesse d'York, et il se trouve maintenant condamné pour des faits, disons, qui relèvent de la politique, à tel point que le père de la chaise, qui est maintenant le confesseur du roi. Confesseur du roi, ça ne veut pas dire qu'il se contente de confesser Louis XIV, parce qu'il aurait peu de travail. mais il s'occupe des affaires religieuses de la France. Enfin, alors, le confesseur du roi se sent moralement obligé d'informer le pape. Et il y aura une réponse du pape, parce que un article a paru dans une revue française disant que la colombière avait été libérée, mais qu'il avait raconté des choses nouvelles au tribunal, ce qui était faux. Il n'avait rien raconté de nouveau. Alors c'est pour ça que, vu de l'Europe restante, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'était pas très net, tellement que le pape enverra une réponse au confesseur du roi et à Louis XIV, leur disant qu'il fallait ne pas mêler le politique et le religieux. En fait, il n'avait rien mêlé, mais peut-être que la prudence n'avait pas été aussi forte qu'elle aurait été nécessaire. Nous voilà donc maintenant à ces dernières années. Là, on peut résumer assez facilement ce qui va se passer. Il est très malade. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? On l'envoie à Lyon, où pendant quelque temps il va être chargé de la direction spirituelle de quelques scolastiques qui font leur théologie. Il aura d'ailleurs dans ce groupe le père de Galifet et le père Croiset. Père de Galifet deviendra plus tard assistant de France à Rome, et il fera un gros travail pour montrer auprès du monde romain ce qu'est vraiment le culte du Sacré-Cœur. Et tout ça, il l'a appris de Claude la Colombière lorsqu'il était à Lyon. Mais de Lyon, il va beaucoup circuler, car on l'envoie dans sa famille, il va respirer l'air natal à Vienne, il se soigne comme il peut. Finalement, il revient quand même à Lyon. Et alors c'est là que un père, qui était le recteur du collège et qui a été l'instructeur de Claude au troisième an, donc il le connaît très bien, et il lui dit, c'était en juillet, fin juillet, le collège était en vacances, ce père était à ce moment-là recteur du collège. Il est donc libre. La tradition à l'époque, elle est encore vraie au XIXe siècle, les élèves restaient au collège jusqu'à la Saint-Ignace, c'est-à-dire le 31 juillet. Et les vacances d'été commençaient quelques jours après le 31 juillet. Alors, ce père va trouver donc Claude et il lui dit bien, écoute, tu vaudrais mieux que tu ailles à Paray-le-Monial. En effet, il est désiré par beaucoup de gens, bien sûr par Marguerite Marie, mais aussi par beaucoup d'autres personnes qui l'ont connu et par les jésuites même qui sont dans cette résidence. Et à Lyon, on est tout à fait aussi d'accord pour penser qu'il serait mieux là avec ces gens qu'il aime, où il a eu une telle importance à Paray. Et alors, bon, c'est le départ pour Paray-le-Monial. Il va rester quelque temps, et je pense que vous savez tous comment ça se termine, pas. Ça devient de plus en plus grave. Les médecins reviennent à la solution qu'on retrouve tout le temps, pas, aller respirer l'air natal. Un frère, le frère qui est archiprêtre à Vienne, envoie une voiture, et vous savez qu'au dernier moment, eh bien, Marguerite Marie envoie un petit billet disant que non, il faut que le sacrifice du père la Colombière s'achève à Paray-le-Monial. C'est le Christ qui le demande. Et quand Marguerite Marie parle, Claude obéit. Car c'est une chose qu'il faut rappeler, même après le passage de Claude à Paray le Monial, on peut dire que c'est Marguerite Marie qui est devenue la directrice spirituelle de Claude. À plusieurs reprises, elle a calmé certains doutes qu'il avait quand il était en Angleterre. Claude, parfois, sentait que la vanité tendait à revenir. Marguerite Marie lui écrit et dit « Ce n'est pas de vous, c'est une tentation qui vient de l'extérieur, mais ça ne vous touche pas intérieurement. » Claude dira dans une lettre « J'avais un doute sur quelque chose, on sait quoi, il ne dit pas lequel, mais il dit « Mais une lettre de la sœur à la coque m'a remis tout de suite dans la paix. » Il est devenu vraiment le fils spirituel de Marguerite Marie et il obéit parfaitement à ce qu'elle lui demande. Et ce sera le dernier ordre qu'il recevra de Marguerite Marie. Il mourra quelques jours après, le 15 février, donc 1682, à l'âge de 41 ans. Que penser de cette décision, disons, du Sacré-Cœur par l'intermédiaire de Marguerite Marie? Je crois qu'il y a une intention, certainement du ciel, de ne pas séparer sur la terre, mais sur la terre de façon visible, Marguerite Marie et Claude la Colombienne. On imagine mal Claude à Lyon et Marguerite Marie ici. On ne peut pas séparer ces deux personnes qui ont tellement œuvré à la connaissance du cœur de Jésus. C'est un peu ce qui se réalise et ce qui est marqué sur la mosaïque, sur la lettre, à savoir que c'est aux sœurs de la Visitation de faire connaître le cœur de Jésus, mais c'est aux membres de la Compagnie de Jésus de le répandre dans le monde entier en prêchant sur ce culte. Eh bien, je crois que si maintenant, je pense aussi à ce tableau des trois cœurs qu'on trouve maintenant dans la Colombière, la chapelle La Colombière, où Marguerite Marie a vu le Christ prendre les deux cœurs, celui de Marguerite Marie et celui de Claude, et les mettre dans son propre cœur. On peut dire que quand il y a eu une union célébrée par cette décision alors de Dieu et rendue publique, après, il était tout à fait normal que les gens qui viennent prier le Sacré-Cœur et qui prient en même temps ceux qui en ont été les témoins ne soient pas séparés. Et c'est pour ça que nous pouvons célébrer aujourd'hui cette fête ici et là-bas, pas bien loin, pour ne pas séparer ce que le Christ avait uni et qui est rappelé. Voilà ce que je peux vous dire. Et si j'ai pu éclairer un petit peu plus cette belle aventure et cette belle manifestation du Seigneur, j'en serai certainement très heureux et ce sera ma récompense.